Et Info Soir, c'est avec vous, Mickaël Juneski.
À la une, le 13 mai, deux ans après, la date du début des émeutes de 2024 reste gravée dans la mémoire des Calédoniens. Demain, nous célébrerons la fête de l'Ascension, la montée au ciel du Christ, corps et âme, 40 jours après Pâques. L'aventurier et écrivain Patrice Franceschi est de passage en Calédonie. Il était notre invité dans le journal de la mi-journée, extrait choisi dans ce journal. Le navire scientifique Persévérance reçoit les visiteurs cette semaine. Le voilier est à quai depuis une dizaine de jours à Nouméa, de retour d'une mission autour du pôle Sud. Au collège Mariotti, les élèves des classes à horaires aménagés, mathématiques et sciences présentaient les premiers résultats de leurs expérimentations. Des jeunes passionnés qui ont trouvé leur voie. Le sport, un beau bilan pour la natation calédonienne aux Océania, aux Fidji. Nos représentants se sont illustrés avec déjà les Jeux de Tahiti en ligne de mire. Et la fin de l'aventure de Johan Zidaner avec la sélection calédonienne de football, c'est officiel, il n'est plus en fonction. Le nom de son successeur n'est pas encore connu. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Le deuxième anniversaire du 13 mai, c'est désormais une date particulière pour tous les Calédoniens. Elle est devenue le symbole des émeutes qui ont marqué l'année 2024 et des répercussions qu'on leur connaît encore aujourd'hui. Ce mercredi, les avis étaient encore partagés au sein de la population au moment de se remémorer ces événements survenus il y a deux ans déjà, même si la majorité de la population s'accorde sur une idée forte, la volonté d'avancer. Écoutez ce florilège de réactions recueillies ce matin au marché municipal de Nouméa.
Ça me fait quand même penser à ce qui s'est passé. Ça me reste toujours dans le cœur.
Il faut avancer, hein. C'est fini, c'est deux ans. Là. Maintenant, on a besoin que l'économie redémarre. C'est surtout ça, le maître mot. Là, je sens partout, je parle avec tout le monde, il n'y a aucune peur. Je ressens une envie que tout le monde s'entende et que ça reprenne. Quoi.
Bah, c'est une catastrophe. Même si c'est pour le peuple kanak et tout, mais sauf que ça a été ravageur. Quoi.
Dommage, parce que bon, le vivre ensemble est possible. Maintenant, ça n'est plus possible.
Ah, les gens sont malheureux. La précarité, surtout les mélanésiennes, qui souffrent le plus.
Le 13 mai, c'est malheureux, c'est arrivé. Et pour moi, tant que kanak, on a vu que ça avance. Bon, il y a des extrémistes, il y a de chaque côté, Marc. Hein. Mais bon, on essaie de vivre ensemble.
On avance avec le temps et puis les choses ils vont bien se passer. Il faut penser positif pour notre pays.
Avec ma femme, on se demandait, mais 13 mai, c'est quelque chose, non? Quoi? On confond un peu tout. J'espère que ça ne va pas se confondre complètement.
Moi, j'aimerais bien que tout le monde vive en paix, tous ensemble. C'est le souhait de Jésus-Christ. Le pays, il appartient à tout le monde.
Nostalgique. Et un petit peu triste aussi. Bah, avec tout ce qui s'est passé, je me dis que ça fait quand même deux ans qu'il ne faut pas oublier cette date-là aussi. Mais que malgré tout, il faut avancer.
Des propos recueillis donc ce matin au marché de la Moselle, à Nouméa, deux ans après les émeutes de 2024. Beaucoup de Calédoniens restent donc marqués par ces longues semaines de violence. Jean-François Baudin.
Oui, et pour évoquer ce sujet qui reste difficile pour beaucoup et parfois un peu tabou, nous avons contacté le docteur Bruno Calandro. Il est psychiatre, mais aussi président du Conseil de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie. Premier constat, les patients ont de plus en plus de mal à se soigner pour des raisons économiques. Par ailleurs, et c'est le deuxième constat, les psychiatres ont vu une sorte de modification de leur patientèle. Après avoir soigné ce que l'on pourrait appeler l'urgence post-émeute, il soigne désormais des patients marqués au long cours par le contre-coup des violences.
Le plus important, c'est un stress post-traumatique, puisqu'ils avaient vécu des périodes très, très, très difficiles, avec un stress répété pendant plusieurs jours ou semaines. Et puis, après, il y a eu des stress autour de la perte du travail. Et puis, ce que je vois beaucoup, moi, c'est des chefs d'entreprise, dont les entreprises sont en grande difficulté, et qui se débattent tant bien que mal, et qui ont tendance un peu à s'épuiser, et qui sont plutôt dans la situation, effectivement, de ce qu'on appelle un peu du burn-out, parce que malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à émerger complètement.
Et après les émeutes insurrectionnelles qui ont débuté le 13 mai 2024, une attention toute particulière avait été portée sur l'état psychologique ou émotionnel des enfants qui ont subi de manière indirecte ces semaines de violence. Des enfants qui ont été finalement beaucoup plus résilients que les adultes, souligne Dr Calandro.
Les enfants sont plus résilients que pour les adultes parce qu'ils ont repris une vie, la vie comme avant, je dirais. Mais ce qui était important pour eux, c'était la reprise de l'école, retrouver leurs camarades de classe, leur maîtresse, retrouver un travail scolaire dans une école et non pas à la maison. Et puis, retrouver aussi la cantine pour certains, etc. Donc les enfants ont plus supporté, je dirais, ce d'autant que souvent ils ont été tenus un peu à l'écart, à l'abri par leurs parents, que les parents ne leur décrivaient pas ce qui se passait sur les barrages et tout ça, et éviter de regarder les informations avec les enfants présents.
Le docteur Bruno Calandro est également le président de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie. On sait que les professionnels de santé ont beaucoup souffert des émeutes en 2024. Et à l'approche des élections provinciales, ils voudraient et espèrent que les professionnels de santé soient mieux représentés dans les hémicycles des provinces et du Congrès, afin que les problématiques liées au système de santé soient mieux comprises et donc mieux prises en compte.
Le 13 mai, une date restée gravée dans les mémoires et qui suscite la crainte d'une nouvelle flambée de violence chez certains. L'Association des Calédoniens Vigilants veille et reste mobilisée. Même si elle estime qu'il n'y a pas de risque de nouvelles émeutes, nous a dit Thierry Dubois, vice-président de l'Association des Calédoniens Vigilants.
Aujourd'hui, on n'est pas plus inquiet que ça, mais on est quand même vigilant. Nous, de notre côté, on a l'attitude de faire face à de nouvelles émeutes de ce type-là, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on soit dans ce cadre-là. Il y a des rassemblements de la CCAT dans les différents quartiers, et en brousse, et dans les îles. Alors, bien sûr, il y a des appels au 13 mai. Les forces de l'ordre, aujourd'hui, sur le territoire, quasiment le territoire. Donc on n'a pas de crainte plus que ça, on fait quand même attention à ce qu'il dit, quand même attention à ce qui peut se passer. On n'est pas craintif d'une émeute, on est surtout craintif de ce qui pourrait se passer avec l'effondrement économique. On risque de se retrouver avec des émeutes de la faim, etc. Donc ça c'est plus compliqué parce qu'on est face à des délinquants. Et ça c'est embêtant, c'est compliqué à gérer. On a l'impression qu'on n'est pas face à quelque chose de structuré, on est plutôt face à quelque chose de ponctuel. Ça nous inquiète.
Aujourd'hui, l'économie ne cesse de sombrer et aucune perspective ne se dessine. En 2024, au plus fort des violences sur le terrain, Stéphane Yotto, le vice-président de la CCI, ne s'attendait pas à une crise aussi longue.
Pas du tout. Je me souviens des discussions en juin, juillet, août avec la première mission Requin. Les fonctionnaires de Paris nous disaient la crise sera terminée fin 2024. Et nous, on leur disait, non, on voit ça plutôt mi-2025. Et là, on est début 2026 et c'est presque pire que en 24 et 25. Je crois qu'on est sur une crise de confiance, hein, d'abord et avant tout. Donc, tant qu'on n'a pas des éléments de confiance qui reviennent, on rentre dans un cercle assez négatif où on a baisse de la consommation, baisse des emplois, baisse des revenus fiscaux. Et non, on n'est pas au bout de la crise. Tout le monde est conscient que la période est très difficile. Et je pense que ce qui touche le plus le moral des chefs d'entreprise, c'est de voir que du côté des discussions institutionnelles, du côté politique, ça avance pas vraiment.
La semaine dernière, le monde économique a formulé des propositions de mesures d'urgence pour éviter à l'économie de s'effondrer 2 ans après ces violences de 2024. Une centaine de personnes étaient rassemblées ce matin à la Vallée du Tir, à l'appel de la CCAT, pour rendre hommage à ceux qu'ils qualifient de martyrs 2 ans après les émeutes du 13 mai. Dans les prises de parole, Christian Théin et les représentants du FLNKS ont tenu à affirmer que le combat n'est pas terminé et à répéter qu'ils sont opposés à toute ouverture du corps électoral. Un rassemblement qui se situait aussi dans la perspective des élections provinciales, avec un appel à la mobilisation et à l'unité des indépendantistes pour aller chercher la majorité dans la province sud. D'autres points de mobilisation de la CCAT ont eu lieu sur le territoire, notamment à Lifou, Point-d'Imier ou Conné.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, 2 ans après le 13 mai, êtes-vous confiant dans la capacité de la Nouvelle-Calédonie à se redresser? Si vous êtes confiant, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 90% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'avec l'antivirus, ils craignent le retour d'une épidémie mondiale. Ils sont 10% à ne pas le craindre. Michael Forest tente d'éteindre la polémique autour du déplacement d'une délégation du FLNKS au Vanuatu pour participer à l'invitation du gouvernement local à un forum économique. Certains chefs d'entreprise calédoniens ont d'ailleurs quitté le forum lorsqu'ils ont su que l'invitation n'avait pas été adressée, comme il se doit, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le sujet a été évoqué ce matin lors de la séance du gouvernement, mais Michael Forest dit ne pas comprendre la polémique engendrée par ce déplacement auquel il a pris part.
Comme je l'ai rappelé, j'avais l'impression qu'en 72 heures à Port-Vila, mon pays, il allait couler sous l'eau. Alors que les choses, elles se sont faites comme elles devaient se faire. Alors, peut-être qu'il y a eu des loupés par-ci, par-là. En tous les cas, nous, on a bien été invités officiellement. Mon ordre de mission, il a été validé par qui de droit. Les entreprises qui sont déplacées, elles ont pris en charge elles-mêmes leurs déplacements. Et à partir de là, encore une fois, je peux comprendre qu'il y a des difficultés géopolitiques. C'est aussi pour ça que j'ai exprimé mes interrogations à monsieur le commissaire devant toute cette communication tout azimut qui est venue bousculer, on va dire, l'objet même de la mission, qui était de pouvoir, dans un temps où notre secteur privé cherche de l'air frais, se dire aussi qu'en Mélanésie, il y a aussi de l'air frais qu'on peut respirer.
Si Michael Forest a reçu une invitation à participer à ce forum, aucune invitation officielle n'a été adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est contraire aux usages entre la Nouvelle-Calédonie et son voisin. D'autre part, selon nos informations, aucun ordre de mission n'a été signé par le gouvernement. Le transport maritime au menu de l'exécutif ce matin. Ses membres ont approuvé un accord de garantie pour deux contrats de prêt contractés par la Sudil. L'un auprès de la BNC et l'autre auprès d'un pôle bancaire. Après 17 ans de service, le Bedicho arrive en fin de parcours et la Sudil prévoit son remplacement. Elle envisage l'achat d'un navire pouvant emmener 400 passagers au lieu de 350 aujourd'hui et surtout plus économe de 15% en carburant. C'est donc une première étape de franchie. Le gouvernement indique que la situation financière de la Nouvelle-Calédonie et son niveau d'endettement consolidé ont été prises en compte dans la décision d'octroi de cette garantie pour un projet estimé à 3,4 milliards de francs. En bref, ce soir, c'est le conseil municipal du Mont-d'Or qui se réunit depuis 17h. Parmi les 17 points à l'ordre du jour, une autorisation d'acquisition, de détention et de transport d'armes par la commune pour les besoins de la police municipale. Les élus doivent également adopter leur règlement intérieur.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont-d'Or, c'est le 100.4.
À l'actualité religieuse, la fête de l'Ascension sera célébrée demain dans les paroisses de Nouvelle-Calédonie. Un temps fort pour l'Église qui commémore la fin de la vie terrestre de Jésus et sa montée au ciel 40 jours après Pâques. Les précisions du père Jean-Paul Pouillet, responsable de la paroisse de la Foi.
La fête du Seigneur est une grande fête parmi toutes les fêtes du temps pascal. Depuis la mort et la résurrection du Christ, les chrétiens lisent les passages de l'Évangile où l'on voit Jésus vivant, ressuscité, qui accompagne ses apôtres, qui les aide à découvrir l'ampleur de cet événement. Et donc, il est encore présent, d'une certaine manière, physiquement avec eux. Il leur apparaît, il partage avec eux des repas et il leur promet que même s'il ne pourra plus être visible, eh bien, il enverra son Esprit Saint. Et donc nous avons 50 jours pour fêter la résurrection de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Mais au bout de 40 jours, il y a cette étape décisive où le Christ s'éclipse. Et donc les textes bibliques nous racontent qu'il est monté au ciel, que ses apôtres ont compris qu'ils ne le verraient plus. Mais ils ont veillé dans la prière pour attendre le don de l'Esprit Saint, cet Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre en plénitude les enseignements du Christ et surtout de les mettre en pratique.
L'Ascension marque la fin du temps pascal et elle annonce la fête de la Pentecôte qui sera célébrée le dimanche 24 mai, c'est-à-dire 50 jours après la fête de Pâques. Demain, jeudi de l'Ascension, ce sera donc un jour férié, l'occasion d'un long week-end pour beaucoup d'entre vous. Sur RRB, vos programmes s'adaptent. Vous retrouverez Info Matin, votre grande édition du matin à 7h au lieu de 6h30. Info Mag, le journal de la mi-journée à midi au lieu de 11h30. Pas d'émission, vous avez un avis, ni de jeudi de l'économie, Radio Rythme Bleu. Info Soir reste programmé à 17h45. Il est 17h passé de 59 minutes, on marque une courte pause publicitaire dans cette édition. On se retrouve dans un instant pour voir le reste de l'actualité. Aventure, littérature et science pour les plus jeunes au menu. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Mieux piloter, c'est déjà économiser. Suivre régulièrement vos consommations, c'est utile. Vous repérez vite les dépenses anormales, vous agissez plus tôt et évitez les mauvaises surprises. Toutes nos astuces sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Info Soir, Michael Juneski.
Un invité exceptionnel ce midi dans l'édition de la mi-journée. Nous avons reçu Patrice Franceschi qui est de passage sur le territoire, Elisabeth Noir.
Aventurier, écrivain, philosophe, Patrice Franceschi fait une brève escale en Nouvelle-Calédonie qu'il connaît bien. Avant de partir pour le Vanuatu, il doit réaliser une série de reportages pour le Figaro Magazine, en l'occurrence à la rencontre d'une tribu de l'île de Sara. Il repart à la rencontre des micro-sociétés qu'il a rencontrées tout au long de sa vie d'aventurier et il nous a dit d'où lui venait cette passion pour ces tribus partout dans le monde.
Globalement, et c'est valable aussi pour mes engagements avec les Kurdes, avec les Afghans ou les Arméniens depuis 2 ans, c'est les gens. Par exemple, on m'a souvent demandé pourquoi vous n'êtes jamais allé vraiment une seule fois au Groenland ou dans les terres antarctiques. Bah, parce qu'il n'y a personne, en général. Et donc, ça m'intéresse moins faire une expédition où il n'y a que de l'aspect physique au pôle sud et tout ça. C'est génial, hein. Mais moi, ça me passionne pas parce qu'il y a personne. Et ce qui m'intéresse, ce sont vraiment les gens. Et quand ce sont des gens, c'est le cas de ces tribus, très éloignées de nous, l'altérité totale, mieux les comprendre, savoir, en fait, derrière les apparences des différences, ce que sont les ressemblances qui nous rassemblent. Et ça, c'est passionnant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui pourrait servir aussi à la Nouvelle-Calédonie.
Pilote, marin, grand voyageur, aventurier, Patrice Franceschi sera en permanence sur le terrain. Il s'est notamment engagé en zone de guerre kurde à partir de 2012.
Ce qui m'intéresse, c'est de tenter de ne pas être indifférent à l'évolution du monde quand il y a une gravité dans ces situations-là. J'ai une profonde passion et admiration, par exemple, pour les femmes combattantes kurdes de Syrie. Ce qu'il y a de mieux dans la région, des femmes qui ne veulent pas rester dans l'état dans lequel on les a mis et qui veulent au contraire progresser et obtenir ce que nous avons nous depuis longtemps mais qu'elles n'ont jamais eu, à la fois la liberté, l'égalité avec les hommes, la démocratie et toutes ces choses-là, et qui se battent les armes à la main pour ça. J'avais aidé et participé aux mêmes choses au Kurdistan d'Irak, au moment de la guerre du Golfe, 91-92. J'avais été fasciné par ces gens qui, pour le coup, avaient compris ce qu'est le progrès humain et ne voulaient pas rester à un stade d'obscurantisme. Et au début de la guerre en Syrie, ses camarades kurdes d'Irak m'ont demandé « Ben, tu pourrais pas aller là-bas, on organise ton passage clandestin, il se passe, il faut aider nos camarades. » Oh, j'ai dit « Moi, une aventure comme ça, organisez-moi tout ça. » Et j'y suis allé, il n'y avait personne à l'époque, c'était le début de la guerre. Et quand j'ai vu la naissance des bataillons féminins kurdes, je me suis dit « Franchement, je dois rester là, les aider, faire le lien avec nos autorités en France et tout ça. » Ce que j'ai fait les premières années, jusqu'au début des attentats djihadistes en France.
Un engagement qui l'a aussi amené auprès des Arméniens dans le Haut-Karabakh, où il a pu observer la stratégie menée notamment par l'Azerbaïdjan, où il était précisément en 2024, quand on parlait beaucoup de l'ingérence de ce pays en Nouvelle-Calédonie.
Et là, je me suis dit qu'il y avait, de manière extrêmement visible, parce que ça s'est passé au même moment avec le Kurdistan, les Turcs et les Azéris, tout ce front très anti-occidental en réalité, d'où le fait que la Turquie dans l'OTAN, c'est un cheval de Troie, très visible, vu ce qu'ils faisaient en Syrie comme en Arménie, qui était une entreprise finalement pour repousser l'Occident et ses valeurs, et notamment la démocratie, hors de ces régions. Et ils considèrent, ces gens-là, quand on parle avec eux, que les Kurdes au Kurdistan, les 4 pays, les Arméniens et Israël, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est comme ça qu'ils le voient, sont 3 bastions avancés de la civilisation occidentale hors de l'Occident et qu'il faut les détruire impérativement. Et cette entreprise globale, elle est très nette. Et quand j'étais là-bas et que j'ai vu les Azéris dans leurs attaques contre l'Arménie en même temps et tenter de peser ici, en Nouvelle-Calédonie, en Corse et ailleurs, pendant qu'il le faisait aussi en Syrie, ça m'a à la fois fasciné dans la capacité très dangereuse de ces gens-là d'aller au bout de leurs idées, de leurs conquêtes et de leur anti-occidentalisme, et qu'il fallait faire front commun. Et les Arméniens, comme les Kurdes, l'ont fait en même temps à ce moment-là. Israël, c'était un peu plus compliqué. Et nous devrions, nous, les Français, faire la même chose, que ce soit en Corse ou ici, évidemment.
Et quand il est interrogé sur la Nouvelle-Calédonie, Patrice Franceschi évoque une impression de gâchis.
Ce que je ressens aujourd'hui, mais comme depuis 2 ans, puisque c'est l'anniversaire, c'est une grande tristesse. C'est-à-dire, comment détruire les trésors que l'on a sottement? C'est qu'ici, il y avait tout pour être heureux, tout le monde, tous ensemble, et que finalement, on n'y est pas encore parvenu et de loin. Et qu'on ne sait pas ce que va être l'avenir, et que donc oui, c'est une grande tristesse, c'est un gâchis. Ça aurait pu être très différent. Et tout ça, parce que certains ne veulent pas que le bonheur sur Terre puisse survenir.
Patrice Franceschi, que nous avons aussi interrogé sur son dernier ouvrage paru il y a un mois et intitulé « Dans le passage du temps », un livre dans lequel il réfléchit à la façon dont l'expérience passée peut continuer à éclairer le présent. Une interview à réécouter ou à visionner sur notre site internet.
Le voilier Persévérance ouvre ses portes au grand public. Depuis ce début de semaine, les Calédoniens peuvent visiter le navire scientifique de l'explorateur Jean-Louis Etienne, qui est à quai à Nouméa pour plusieurs mois. L'occasion pour les 7 membres d'équipage de faire découvrir leur quotidien sur un bateau et son fonctionnement. En début d'après-midi, plusieurs groupes ont eu la possibilité d'effectuer une visite sur ce navire long de 42 mètres.
C'est très complet, aussi bien du point de vue de l'équipage que du point de vue des scientifiques, de la vie à bord, mais aussi les missions de ces expéditions.
J'ai appris un peu le nom des voiles parce que j'avais déjà fait du bateau mais je m'en souvenais plus.
C'est très intéressant de voir comment ils vivent, comment ils s'organisent quand il y a des missions sur de long terme.
C'était une visite très intéressante et de découvrir un navire de cette envergure et tout ce qui va avec, donc l'équipage, l'équipement, etc.
C'est une première. Moi, pour moi, ça me tenait à cœur de venir visiter ce bateau. Ça me fait rêver de savoir où il a voyagé. Il a fait 3 fois le tour du monde et moi, ça me fait voyager en venant ici. Ça me fait rêver.
Les scolaires sont invités à découvrir le Persévérance. Les familles peuvent également réserver leur visite via le site internet eloasso.com. Les classes CHAM, une nouveauté de la rentrée 2025 sur l'ensemble du territoire national qui a depuis trouvé son public en Calédonie, Léo Fichot.
Oui, ces classes à horaires aménagés mathématiques et sciences permettent à des élèves volontaires de se retrouver pour approfondir leurs connaissances mathématiques et scientifiques. Le collège Jean Mariotti est le seul établissement sur le territoire à proposer une classe CHAMS. La première période était centrée sur l'étude du blob. Héloïse, Louane, Timothée et leurs camarades ont exposé hier leur démarche expérimentale à la manière de véritables chercheurs.
C'était la présentation du Physarum polycéphalum, donc un blob qui est un organisme unicellulaire, donc c'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon.
Et donc ça, vous l'avez observé, vous l'avez analysé, vous avez fait des expériences là-dessus ?
On l'a observé à la loupe binoculaire et au microscope depuis le début de l'année. On a réussi à le découvrir, à apprendre beaucoup de choses sur lui. Et là, on a fait des problématiques, des expériences et on les a présentées à nos parents aujourd'hui.
Ah bah c'était super. Par exemple, moi, j'ai fait une expérience avec, dans une boîte, un blob et une ligne de sel. Et dans une autre boîte, le blob et la terre. Voilà, on les a comparés. Le blob allait à l'opposé du sel et avec la terre, il l'a traversé.
On a, on va dire, prouvé à nos parents que cet être vivant peut être un génie scientifique et qui nous aide aujourd'hui à beaucoup de choses.
Oh oui, beaucoup. C'est amusant, très amusant.
Ça vaut grave le coup.
Lors de la prochaine période, les élèves de cette classe CHAMS du collège Jean Mariotti travailleront sur le platis Ricodi à la Côte Blanche. Ils étudieront les variations de température de l'eau, la croissance et le blanchiment des coraux ou encore le courant des marées.
Il est 18h passé de 7 minutes, une dernière pause publicitaire dans cette édition et puis on voit toute l'actu sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 16 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atto SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
Le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité du ballon rond à la une du sport. Johan Sidaner et la FCF, c'est terminé. Ils ont d'un commun accord mis un terme à leur collaboration. Une annonce faite cet après-midi par voie de communiqué. Arrivé en août 2022, Johan Sidaner aura dirigé la sélection calédonienne pendant près de 4 ans avec des résultats marquants. Une médaille d'or aux Jeux du Pacifique en 2023 et une performance historique lors des barrages de la Coupe du Monde 2026. Johan Sidaner qui s'estime heureux d'avoir mené les Calédoniens dans cette aventure durant 4 années.
Une page qui se tourne après 4 fantastiques années ici en Nouvelle-Calédonie et au sein de la Fédération Calédonienne de football avec le sentiment du devoir accompli. Une riche et belle expérience avec quelques faits marquants et quelques résultats forcément probants. Des rencontres qui auront marqué mon passage ici. Le souhait, ce serait de voir que le travail et le chemin continuent dans le sens qu'on a mené depuis 4 années, encore une fois. Un passage et des souvenirs qui qui resteront, mais forcément qu'on souhaite, et je souhaite au football calédonien et notamment à la sélection A de continuer comme on l'a entrepris, c'est-à-dire avec beaucoup de travail, mais des valeurs et une humilité qui nous ont permis d'accrocher des résultats qui semblaient presque inatteignables il y a ça 48 mois. Donc on termine sur une très belle note avec ce match en barrage, malgré tout malheureusement cette défaite contre la Jamaïque, mais effectivement ce cycle restera marqué par quelques belles expériences et notamment la médaille d'or aux Jeux du Pacifique.
Un départ qui marque la conclusion d'un parcours qui a permis au football calédonien de franchir des étapes significatives, tant sur le plan de la rigueur technique que de la dynamique sportive, peut-on lire sur le communiqué de la fédération aujourd'hui, la fédération calédonienne de football, qui souligne encore le sérieux exemplaire, l'intégrité et le leadership dont Johan Sidaner a fait preuve. Son travail laisse une empreinte concrète et des bases solides pour la suite des projets. Pour l'instant, nous ne connaissons pas le nom de son successeur. Dans la région, à présent, la fin aujourd'hui des Océanias de natation, Léo Fichot.
Oui, après 6 jours de compétition au Fidji, la délégation calédonienne, composée de 9 jeunes qui ont entre 14 et 18 ans, a décroché 9 médailles, 2 en or, 2 en argent et 5 en bronze. La dernière, c'était ce matin sur le relais 4 x 1250 mètres en eau libre. Luc Mercier, Camille Jarcé, Anna Edeland et Théo Deland ont terminé en beauté puisqu'ils ont décroché l'or. Objectif atteint pour Stéphane Tichon, conseiller technique de la Ligue calédonienne de natation.
Donc on repart des Océanias avec un très bon bilan puisque l'ensemble des nageurs ont accédé dans la compétition en natation course sur les différentes finales A avec beaucoup de records personnels, donc c'est évidemment très satisfaisant. 8 médailles de gagner, 3 au niveau de l'eau libre, les autres au niveau du bassin. À souligner la très belle performance d'Anaë Delande sur le 400 nage libre, qui gagne l'or et puis à l'issue d'une magnifique course et à la touche la néo-zélandaise avec qui elle était en confrontation. Donc voilà, beaucoup de motifs de satisfaction, une belle équipe de Nouvelle-Calédonie et de bons résultats à cette occasion.
Et parmi les 9 jeunes nageurs, on signalera la très bonne compétition, comme le disait Stéphane Tichon, d'Anaë Delande, qui a décroché 4 médailles, 2 médailles d'or et 2 médailles de bronze.
Merci beaucoup Léo Fichot. 18h passées de 12 minutes, on termine ce journal avec la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Une météo que vous nous détaillez, Ismaël, bonsoir.
Bonsoir, Mickaël. Et on ouvre ce bulletin avec aucune vigilance particulière. Cette nuit, les nuages et quelques averses persistent en soirée sur le nord-est, Bélep et les Loyautés. Ensuite, le temps redevient sec, tandis que les nuages deviennent moins présents. Ailleurs, la nuit est bien étoilée. En fin de nuit, des nuages abordent l'extrême sud des marées et déposent quelques ondées. L'alizé de sud-est faiblit progressivement entre 10 et 15 nœuds, localement moins de 10 nœuds en fin de nuit sur l'ouest. Et les températures minimales sont fraîches à l'intérieur des terres avec 12 à 16 degrés et ailleurs elle varie entre 17 et 22 degrés.
Merci beaucoup Ismaël, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous, dans un instant vous retrouverez l'actualité nationale et dans le monde. Ce sera suivi de l'interview d'Europe 1 ce soir. Laurence Ferrari reçoit Hervé Morin, président des centristes. Belle soirée à l'écoute de nos programmes.